Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien Vous Fasse. En cette semaine de Noël, vous en profitez peut-être pour voir ou revoir des classiques de la culture pop, bien au chaud sous un plaid avec une bonne tasse de chocolat chaud, des films de super-héros comme Joker ou Black Panther, des films d'amour comme Titanic, des sagas intergalactiques comme Star Wars, des séries comme Friends ou Breaking Bad, bref, des fictions populaires qui assurent leur office, nous divertir et pourquoi pas aussi réfléchir. Il est aujourd'hui stérile d'opposer Shakespeare et Game of Thrones. Chacune à leur manière, les œuvres classiques et populaires nous enseignent sur notre destin individuel et collectif. Pour nombre d'entre nous, la culture pop apparaît comme une source de mythes à laquelle s'abreuver pour répondre à des questions existentielles sur le sens de la vie, de la mort, de l'amour, de l'infini et au-delà. Ce matin, je vous propose d'explorer quelques concepts et interrogations philosophiques en s'appuyant sur Harry Potter, Friends ou encore Le Roi Lion. Ça s'appelle la pop philosophie. N'hésitez pas à réagir sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse et sur l'application France Inter. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien Vous Fasse.
Bonjour Marianne Chaillant.
Bonjour Ali.
Vous êtes professeur de philosophie à Marseille et vous publiez aux Équateurs In Pop We Trust, la philosophie par les grands classiques de la culture pop. Pourquoi ce titre, tiens, In Pop We Trust? Pouvez-vous traduire ce titre en français?
J'ai foi dans la culture populaire et je crois que c'est l'étendard que j'ai essayé de brandir dans la préface de ce livre, dans lequel je promeux la culture populaire qui malgré cette ouverture que vous avez faite très belle, qui défend comme moi la culture populaire, souffre encore, je le crains, d'un discrédit auprès de certains. Et donc, j'essaye d'affirmer contre ce discrédit que nous pouvons avoir foi dans la culture populaire, comme vous l'avez dit, pour nous enseigner beaucoup de leçons de sagesse.
Bonjour Frédéric Sigrist.
Bonjour Ali.
Vous êtes comédien, chroniqueur le vendredi à 6h55 sur France Inter, ça s'appelle Blockbuster. C'est une déclinaison de votre émission estivale éponyme et un jeu de société vient de sortir. Il s'appelle, je vous le donne en mille, Blockbuster, idéal pour jouer en famille, entre amis ou même seul en cette période de fête. Et si on a le temps, on jouera avec nos invité. Hein.
Avec plaisir.
Bonjour Thibaut de Saint-Maurice.
Bonjour Ali.
Vous êtes professeur de philosophie, chroniqueur dans l'émission et vous avez publié il y a quelques années Philosophie en série, en deux volumes, où vous vous posiez de grandes questions philosophiques en vous appuyant sur les séries. Par exemple, la fin justifie-t-elle les moyens avec la série 24 heures chrono ou bien qu'est-ce qu'on attend pour être heureux avec Desperate Housewives? Vous êtes l'un des pionniers de ce que l'on appelle aujourd'hui la pop philosophie. C'est quoi exactement la pop philosophie?
Un des pionniers, je sais pas, mais
si.
Bon, non, la pop philosophie. Alors, en fait, au départ, c'est un concept que l'on trouve chez Deleuze, dans un sens un petit peu différent, parce que Deleuze parlait de il s'interrogeait sur la possibilité que la philosophie puisse ou non provoquer des effets aussi pop que la musique, le cinéma, le rock, etc. Et cette expression, donc souvent on fait cette généalogie de la pop philosophie jusque-là, mais donc pour Deleuze, c'était plutôt une interrogation interne propre à la philosophie. C'était pas un programme, c'était pas une exploration. Et puis avec peut-être le tournant des années 90-2000, il y a un foisonnement de ces produits de la pop culture. Parce qu'il y a une explosion en fait des industries culturelles qui les produisent et que tout d'un coup cette culture qui était peut-être délégitimée, qui était réservée à des cases de divertissement un peu stupides, etc., monte en qualité, alors pour des tas de raisons qu'on pourrait détailler, mais surtout commence, et c'est ça qui m'intéresse le plus et qui je pense nous intéresse tous autour de la table, commence à devenir en fait une culture proprement commune. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu, on l'a appris avec toute la sociologie critique des années 60-70, que la culture classique est en fait une culture, pour le dire vite, plutôt des élites sociales. Et cette culture populaire, comme on l'appelle aujourd'hui, ou la pop culture, en fait, ce qu'elle réussit à faire dans ce tournant des années 90-2000, c'est de devenir une culture authentiquement commune, c'est-à-dire qui traverse les classes sociales.
Marianne Chaillant.
Je suis absolument d'accord avec lui et il a raison que le concept n'était pas programmatique. Et puis aujourd'hui, on est nombreux à revendiquer que nos travaux s'inscrivent dans une pop philosophie, mais on la définit pas tous de la même manière. On n'a pas tous cette même pratique. Moi, pour ma part, ce que j'essaye de faire, comment je conçois la pop philosophie, c'est que j'essaye deux choses, en fait. La première, c'est de montrer que la philosophie n'est pas réservée à quelques intellectuels enfermés dans une tour d'ivoire qui s'exprimerait dans un langage inaudible pour le commun des mortels. Mais j'essaye aussi de promouvoir cette culture populaire, à montrer qu'elle pense dans son langage, avec ses propres codes, certaines questions qui traversent les grands textes classiques. J'essaye de montrer que cette culture populaire, elle est capable, elle aussi, de productivité symbolique. Et voilà, j'essaye de réconcilier, en fait, je sais pas si vous vous rappelez que chez les Grecs, le mot loisir se disait scolé, ça a donné le mot école. Bon, ça surprendrait mes lycéens d'apprendre que scolé veut dire loisir. Pour eux, pas du tout. Pour eux, le loisir, c'est des pratiques de divertissement. Ben, j'essaye de renouer le sens contemporain de loisir, c'est-à-dire le divertissement, et puis ce sens grec du loisir qui est le travail de l'âme, le travail de la culture de l'âme, l'étude. Voilà, je pense qu'on peut, au cœur de nos pratiques de divertissement, on peut trouver des occasions inattendues de cultiver son âme.
Frédéric Sigrist.
Moi, ce qui m'interpelle dans la définition de pop culture, c'est qu'en fait, elle est mouvante. Quelque chose qui est jugé aujourd'hui pop peut très bien devenir quelque chose de très classique dans quelques années. Aujourd'hui, quand on parle de Sergio Leone, c'est un réalisateur révéré, etc. Alors qu'en fait, initialement, il s'inscrivait dans une démarche de cinéma de genre. Et en fait, c'est au bout d'un moment, j'ai l'impression que ce qui est pop, c'est ce qui plaît immédiatement au grand public. Et ensuite, il y a peut-être une sorte d'élite critique qui valide ou non certains éléments de cette pop culture et qui en font des grands classiques. Et donc, en fait, je trouve que c'est quelque chose de toujours très changeant. Je pense que quand on regarde Molière aujourd'hui, bah, Molière, à une certaine époque, c'était de la pop culture. C'est-à-dire que quand le roi lui demandait de faire une pièce, eh ben, il la faisait de manière contemporaine et c'était de la pop culture. Et avec le temps, c'est devenu un grand classique. Et donc, j'ai l'impression que c'est toujours une phase de transition. Si la pop culture, ça commence comme ça plaît à plein de monde et tout d'un coup, on va commencer à regarder ça autrement, avec un œil peut-être plus aiguisé, artistiquement. On va se dire, ah, en fait, il y avait des qualités, et ça devient un classique.
Marianne Chaillant, certains jugeront avec mépris le fait que Star Wars, Friends ou Terminator soient des objets de réflexion philosophique, ou que l'on s'appuie sur elles pour se poser des questions métaphysiques. Tiens, le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, a par exemple proclamé plutôt Phèdre que Netflix.
Oui, et vous vous rappelez dans quel contexte ? C'était le premier confinement, et les élèves de lycée et ne savait pas si oui ou non le bac aurait lieu. Le ministre de l'Éducation nationale disait qu'il maintenait le suspense pour que nos élèves préfèrent passer leur confinement avec Racine plutôt qu'avec Netflix. Et pour ma part, j'ai trouvé cette alternative un peu mal posée. C'est pas Racine ou Harry Potter, par exemple. Ça peut être les deux. Et le pari que je fais, c'est même que ça peut être le premier grâce au second. Dénier comme ça les pouvoirs de la pop culture, c'est pour moi dénier d'abord les vertus curatives de la pop culture. Et dans le contexte du premier confinement, se tourner vers Netflix, ça pouvait être bien salutaire. C'était des moments très anxiogènes. Mais c'était aussi ignorer la vertu pédagogique de ces œuvres de la culture populaire. Pourquoi se faire plaisir, ça serait l'ennemi de l'instruction. Ce que je constate en tant qu'enseignante, et Thibault fait, j'en suis sûre, la même expérience, c'est que le loisir, c'est la clé même de la transmission réussie des savoirs. Et on peut apprendre quelque chose à nos élèves ou à quelqu'un que si on a d'abord suscité en lui le désir d'apprendre. Et pour susciter ce désir d'apprendre, quoi de mieux que de se référer à ces œuvres de la culture populaire qui vont s'offrir comme des tremplins précieux vers ensuite le savoir le plus académique. Voilà, donc c'est vrai que dans l'ouverture de mon livre, qui est un manifeste pour la pop culture, je reprends cette phrase du ministre pour dire que bon, elle se méprenait sur la vertu pédagogique de la culture populaire. Et puis enfin, je pense aussi que c'est faire preuve d'une forme d'ingratitude un peu coupable sur la valeur de cette culture populaire. Et je cite Proust. Bon, je pense que voilà, que les sachants, comme je les appelle, ne mépriseront pas. Il parle de la musique populaire et il dit cette musique, elle a été beaucoup jouée, beaucoup chantée, beaucoup plus d'ailleurs que l'autre, que la grande musique, et elle s'est progressivement remplie du rêve et des larmes des hommes, et à ce titre nous devons la vénérer. La culture populaire, elle occupe une place vraiment immense dans l'histoire sentimentale des sociétés. Et voilà, la respecter, c'est pas simplement avoir la charité du bon goût, c'est aussi avoir l'importance de son rôle social. Donc pour toutes ces raisons, je trouvais que l'alternative était un contresens terrible entre Phèdre et Netflix.
Oui, tout à fait d'accord, parce que en fait, au fond, le grand malentendu qu'il y a derrière cette fausse alternative que Marianne a bien décrite, c'est le malentendu à l'égard du divertissement. En réalité, il y a une sorte de partage. On considère que d'un côté, il y a du divertissement qui n'est pas sérieux, dans lequel on n'apprend pas grand-chose, dans lequel on perd presque son temps et qui simplement procure des sensations agréables. Et de l'autre côté, ce qui est plutôt sérieux, formateur, etc. Moi, ma conviction, et pour le coup, je peux développer des arguments philosophiques très élaborés, c'est que le divertissement en tant que divertissement est formateur et que une bonne série, un magnifique concert ou même quelque chose de festif, un événement festif qui est partagé, etc. en fait contient des éléments de formation et constitutif d'une formation. Voilà, parce que il y a une capacité dans le divertissement à justement nous faire un détour par rapport à la réalité, c'est-à-dire à nous procurer une sorte de parenthèse plaisante, agréable, qui rassurante aussi et confortable, à l'intérieur de laquelle on peut précisément venir à affronter des questions peut-être plus difficiles, etc. Donc il faut se défaire de cette opposition fausse entre divertissement et effort et culture de l'effort. Et en fait, il faut requalifier la culture populaire précisément parce qu'elle est une culture divertissante et que en nous divertissant, en fait, elle nous tire vers le haut.
Tiens, Frédéric Sigrist, vous, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui se pincent le nez à l'idée que l'on puisse mélanger Heidegger, Game of Thrones, Spinoza, Spider-Man, Descartes et Colombo? Que répondez-vous à l'esprit de sérieux, à cet esprit de cul de plomb, hein, pour parler comme Nietzsche?
C'est des postures inutilement élitistes, à mon sens, d'autant qu'il y a énormément d'enseignants qui, tout en donnant des cours très codifiés au sein d'un programme, s'appuient aussi sur des œuvres de divertissement pour compléter ce qu'ils enseignent aux élèves. Et moi, je le vois avec mes enfants. On peut totalement regarder Black Panther, et parler de la situation d'un super-héros fictif africain et ce qui s'est réellement passé avec le commerce triangulaire, la traite négrière, etc. Donc en fait, il faut pas séparer ou cloisonner les choses. En fait, ces deux divertissements et enseignement dit classique, ça se répond et ça avance ensemble.
Marianne Chaillant, il n'y a qu'une seule œuvre française dans votre livre et quasiment pas d'européenne. Il y a la Casa des Papel. Il y a essentiellement des œuvres anglo-saxonnes dans votre livre.
Ah oui, c'est pas volontaire. Mais vous me le faites remarquer, c'est vrai. Et alors, quelle est donc l'œuvre française?
C'est Ayam, je crois, une chanson d'Ayam.
Ah, mais oui. Et en plus, une œuvre marseillaise, pour la Marseillaise que je suis.
Thibaut de Saint-Maurice.
Oui, dans deux petites choses. La première, c'est que, au fond, ce mépris à l'égard des éléments de la culture populaire, c'est très souvent, alors pas toujours intentionnellement, mais inconsciemment, très souvent, en fait, une peur de perdre du pouvoir. Parce que donner, on va dire, au grand public et face aux œuvres qu'il fréquente, qu'il consomme, oui, qu'il regarde, et qui leur donne du plaisir, leur donner les clés de compréhension et leur transformer leur rapport au monde, c'est aussi leur donner plus de pouvoir. Donc il faut bien se méfier de ce mépris à l'égard de la culture populaire. Et puis sur le côté, il y a dans le livre de Marianne une majorité d'œuvres anglo-saxonnes. Oui, parce que c'est une réalité aujourd'hui industrielle et du point de vue de l'industrie culturelle. Donc ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, au fond, c'est pas tellement la nationalité de l'œuvre qui compte, c'est vraiment son contexte de réception. Puisque il y a, si on prend l'exemple de séries télé, par exemple, il y a des séries qui sont américaines, mais qui sont reçues par le public américain de manière très différente de la manière dont le public français va les recevoir. Donc, je suis pas certain que la question de savoir de quelle nationalité sont les auteurs, les producteurs, etc., soit l'entrée la plus pertinente.
Frédéric Sigrist.
Et surtout que ce mépris dont on parle, qui viendrait de gens qui auraient peur de se voir dépossédés du pouvoir, il peut aussi être pratiqué par des amateurs de pop culture eux-mêmes. C'est-à-dire que comme c'est une culture qui a très souvent manqué de reconnaissance, elle s'est développée via des sites de fans, via des fanzines, etc. Et aujourd'hui, elle est vraiment très documentée, très riche. Et quand on voit que comme on le fait là pendant une heure, qu'on en parle sur une antenne publique, des fois c'est mal perçu par ceux-mêmes qui pendant des années en ont parlé de manière underground et qui tout d'un coup disent « Ah bah non, c'est notre truc et nous on sait, vous ne savez pas ». Donc en fait ce mépris, il se répond lui aussi, c'est-à-dire qu'il y a aussi une forme d'élitisme de la part des passionnés.
La philo par les grands classiques de la culture pop, on commence dans quelques instants avec la série Friends. Vous pouvez réagir à notre conversation sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Alexia Rivière et Julien Macarès m'ont aidé à préparer cette émission avec la collaboration de Manon Cancé, à la technique Tristan Gratalon. La réalisation est signée Stéphanie Texier et on écoute Lerita Mitsouko. Rita Mitsouko, Marcia Baila.
Qu'est-ce qu'il y a de prévu pour aujourd'hui ?
Il n'y a que de la soupe.
Qu'est-ce que vous dites ?
Grand bien vous fasse.
Avec tout ce que vous allez enfourner à Noël, c'est pas le moment de faire des réserves.
Mais pourquoi ?
Foie gras et redinde.
C'est très mauvais.
Sur France Inter.
La philo par les grands classiques de la culture pop, c'est notre programme ce matin avec les philosophes Marianne Chaillan et Thibaut de Saint-Maurice et avec le saltimbanque érudit Frédéric Sigrist. Vous avez peut-être reconnu le générique de Friends, hein, une série créée par Martha Kaufman et David Crane, diffusée entre 1994 et 2004. Marianne Chaillan, je rappelle que vous publiez In Pop We Trust. Que raconte cette série pour ceux qui ne l'ont jamais vue, en quelques mots ?
Ce sont quelques amis qui vivent dans deux appartements qui se font face dans New York et qui vont traverser des péripéties multiples pour notre plus grand plaisir. On va beaucoup rire, mais on va aussi beaucoup apprendre grâce à eux.
Et oui, parce qu'avec Friends, vous posez la question suivante. Exister, est-ce seulement vivre ? La scène inaugurale pose cette question et vous vous appuyez sur les épaules d'un géant de la philosophie, Martin Heidegger. Pour tenter d'apporter une réponse.
Bon, il y aurait vraiment tellement de portes d'entrée dans la série, mais quand je me suis dit, tiens, étudiant cette série pour le livre, j'ai regardé le premier épisode et je me suis dit, c'est pas la peine d'aller plus loin. Vous vous rappelez comment les choses commencent? On a cette héroïne, Rachel Green, qui arrive, elle vient de fuir son mariage, elle a laissé son fiancé dépité devant l'hôtel. Elle a fui, puis elle va retrouver une amie d'adolescence, Monica, et toute sa bande d'amis. Et je me suis dit, ça nous délivre déjà un message philosophique et non des moindres, effectivement, celui qu'on retrouve dans « Être et temps » de Heidegger. Alors, qu'est-ce que c'est ce message ? Heidegger nous explique que vous et moi, nous sommes libres et en tant qu'humains, nous avons la capacité de nous définir nous-mêmes, de choisir de quoi sera faite notre existence. Et pourtant, la plupart d'entre nous, nous choisissons de renoncer à ce pouvoir de nous définir nous-mêmes et nous sombrons dans une servitude volontaire. Nous nous aliénons à la norme du plus grand nombre, que Heidegger va appeler la dictature du « on ». En fait, à chaque fois que nous croyons affirmer un choix personnel, derrière ce choix personnel se cache un « on » qui choisit pour nous. Et Rachel croit vouloir se marier, elle a cru vouloir se marier, mais sans le savoir, elle accomplissait un rituel social. Son plaisir n'était pas tant d'épouser Paris, mais son plaisir était de se marier tout court pour satisfaire à ce rituel social. Elle satisfaisait ainsi un impératif dicté par la dictature du « on ». Le désir profond de Rachel, à quel moment en était-il vraiment question ? Qu'est-ce qu'elle en connaissait elle-même ? Et voilà qu'elle connaît une crise d'angoisse devant l'hôtel, qui est un moment que Heidegger nous désigne comme le tournant de la liberté. Voilà, nous sommes aliénés, mais nous avons la possibilité de nous ressaisir si nous traversons cette expérience de l'angoisse qui nous révèle quoi ? Qui nous révèle que depuis le début, nous avons renoncé à nous choisir nous-mêmes. Et donc, elle va s'arracher à son existence inauthentique, elle va rejoindre le Central Perk et ses amis. Elle va répondre à cet appel de la liberté. Les 10 saisons qui suivent vont nous montrer une existence anarchique, c'est vrai, tâtonnante, chaotique, mais enfin vivante. Voilà. Et cette leçon de Friends, c'est, je crois, cette leçon d'Heidegger qui nous explique qu'exister, c'est pas simplement vivre biologiquement, c'est aussi assumer cette tâche lourde de se choisir soi-même.
Et tourner le dos à cette dictature du « on », c'est quand, je vous cite, nous acceptons que les autres nous dictent la mesure, quand nous nous réjouissons comme il convient de se réjouir, quand nous pensons ce qu'il est bon de penser, quand nous faisons ce qu'il est convenu de faire. Que vous inspire Friends d'un point de vue philosophique, Thibaut de Saint-Maurice ?
Exactement les mêmes réflexions que celle de Marianne, et puis aussi sur le temps long, c'est-à-dire du premier épisode au dernier épisode, hein, c'est une série qui a duré 10 ans. Friends, c'est une formidable histoire d'amitié, puisque comme son titre l'indique, ça réunit, ça présente des personnages qui vivent de leur amitié, et c'est aussi une formidable histoire d'amitié avec le spectateur au fond, puisque finalement c'est une expérience très très singulière que propose cette série, comme beaucoup d'autres, mais peut-être celle-ci l'a été pour beaucoup la première fois. C'est le fait de suivre sur un temps long ces personnages et de se sentir à chaque fois accueilli. C'est singulier parce que c'est une série qui se passe dans des appartements, beaucoup dans des appartements, un peu dans Central Park, le salon de thé, bar où ils se retrouvent, mais beaucoup dans des appartements et on est accueilli dans ces appartements. Et puis peut-être la grande leçon de Friends, c'est que une des grandes leçons philosophiques, la manière dont la série pense elle-même et propose elle-même une philosophie de vie, c'est la manière dont finalement les conversations amicales, les échanges amicaux, la fréquentation de nos amis nous transforme et nous permet en fait de nous forger notre propre identité.
Frédéric Sigrist.
Ce qui est intéressant aussi dans Friends, c'est que ça redéfinit particulièrement à l'aune de ce qu'on est en train de vivre en France, ce qui est véritablement essentiel. C'est-à-dire que dans Friends, c'est pas du tout le travail qui est essentiel. C'est même pas la famille. C'est vraiment tous ces à côté. C'est-à-dire c'est ce pas de porte avec ces portes qui s'ouvrent. On passe d'un appartement à l'autre pour retrouver ses amis et où on recrée une famille non pas qu'on nous a imposée mais qu'on choisit. Et je trouve que finalement, c'est le message de Friends dans sa totalité, c'est ce qui est censé être non essentiel, l'est profondément. C'est-à-dire que ses amis, c'est ce qu'on choisit, ces moments de vie, de convivialité, c'est ces moments où on devient acteur de son existence. Alors que tout ce qui est « je dois payer mon loyer, je dois aller travailler » ou tout ça, dans Friends, c'est subi comme des à côté, quelque chose qui ne mérite même pas d'être évoqué ou vraiment montré, parce que ce n'est pas ça qui les définit.
Marianne Chaillant, j'aimerais qu'on revienne à cette scène inaugurale là, dans le premier épisode de la première saison de Friends, quand Rachel quitte son mariage. Rachel s'arrache à une vie inauthentique, hein, grâce à une crise d'angoisse. Et pour Heidegger, l'angoisse constitue un appel de la liberté. On peut l'entendre cet appel ou alors pas du tout.
Alors oui, alors il distingue l'angoisse de la peur. Il faut pas confondre les deux expériences. La peur, c'est quand vous êtes saisi d'un effroi, mais vous savez la raison qui a suscité cet effroi. L'angoisse, c'est tout d'un coup, vous avez le sentiment que tout s'effondre en vous, et si quelqu'un assistait à cette scène et vous disait « mais qu'est-ce qui t'arrive ?», vous seriez incapable de lui donner la raison. Il n'y a pas d'objet de l'angoisse. Il n'y a pas d'objet de l'angoisse. L'angoisse, c'est, d'après Heidegger, notre liberté qui s'appelle elle-même, qui fait éclater cette constitution inauthentique de notre existence, qu'on finalement on a laissé échapper ce pouvoir de se définir nous-mêmes. Et l'angoisse est là pour nous rappeler « mais enfin !» Ta vie t'appartient. C'est toi l'auteur. Il n'y a que toi qui dois être l'auteur de ta vie. Et certains d'entre nous refuseront d'entendre cet appel de l'angoisse. D'ailleurs, Friends propose deux épisodes où Rachel n'aurait pas choisi d'entendre cet appel et où elle aurait épousé Barry. Et ce qu'on voit, c'est qu'elle est profondément malheureuse. Mmh. Et nous savons qu'elle a fait le choix d'écouter l'angoisse, de traverser cette expérience douloureuse. Mais c'est ce qui lui permet d'affronter la lourde tâche, c'est vrai, la lourde tâche d'exister. Mais qui est la clé, peut-être, du bonheur.
Rachel, interprétée par Jennifer Aniston. Donc, regardons Friends avec Heidegger à portée de main et en particulier « Être et temps ». Frédéric Sigrist, vous avez évidemment reconnu.
Ah mais pas du tout.
Titanic de James Cameron.
Ah mais alors c'est vraiment pas mon James Cameron préféré, hein. Vraiment.
En 1998, ben oui, moi j'ai dû le voir une bonne dizaine de fois avec toujours le même plaisir. Titanic avec le célèbre duo Leonardo DiCaprio et Kate Winslet, Jack et Rose. C'est l'une des plus célèbres histoires d'amour de la culture pop, hein, Marianne Chaillant. Et avec Titanic, vous posez la question suivante. Sans autrui, puis-je être un sujet?
Oui, parce que cette histoire d'amour qui est effectivement parmi les plus célèbres de la culture pop nous offre pour moi une leçon de philosophie qui va nous permettre de comprendre ce que Lévinas appelle la véritable rencontre d'autrui. Et pour Lévinas, on devient soi-même un sujet à partir du moment où nous rencontrons autrui. Alors vous allez me dire, on a tous rencontré autrui. Oui. Déjà, la preuve, vous êtes plusieurs dans ce studio, hélas, je ne suis pas parmi vous, mais bon, nous rencontrons. Et Lévinas dit, mais pas du tout, c'est pas ça, la rencontre d'autrui. Il s'agit pas d'avoir croisé quelqu'un, il faut avoir été saisi par ce qu'il va appeler le visage. Vous allez me dire, mais j'ai déjà vu le visage de quelqu'un. Mais là aussi, le visage ne désigne pas simplement notre face, mais c'est une expérience véritable qui consiste à avoir été décentré de soi-même, de cette position d'abord égoïste dans laquelle nous nous situons tous. Et nous avons été saisis, capturés même, par l'effraction du regard d'autrui qui nous dévisage. Et qu'est-ce que nous saisissons dans ce regard? Nous saisissons la vulnérabilité d'autrui. Et cette vulnérabilité vient nous interpeller. Elle vient nous saisir et nous rendre responsables de cet autrui que nous découvrons face à nous. Ceux qui vont choisir d'assumer cette responsabilité pour autrui vont devenir sujets. Et nous ne sommes sujets qu'à condition de nous être mis, pour ainsi dire, sous le patronage de cet autre que nous avons à défendre. Et bizarrement, ce que je viens de vous dire, il m'a semblé le retrouver sur le Titanic. Si vous vous rappelez bien, la première fois que que Jack, donc Leonardo DiCaprio, voit Rose, qui est interprétée par Kate Winslet. Vous rappelez, elle arrive, ils sont pas sur le même pont, hein. Lui fait partie du, malheureusement, des passagers du troisième rang, et elle est une grande aristocrate, et il la voit apparaître. On pourrait croire qu'il ne s'agit qu'une simple scène de rencontre amoureuse, ce qu'elle est aussi. Mais en fait, quand il voit son visage, il est bouleversé parce qu'il discerne dans son visage ce que personne dans l'entourage de Rose n'a perçu, c'est-à-dire sa vulnérabilité. De l'extérieur, on pourrait croire que Rose a une vie magnifique, elle prend le Titanic avec son fiancé, qui lui offre le cœur de l'océan, vous vous rappelez ce bijou magnifique, mais en fait Rose, elle va très mal, elle a l'impression qu'elle est face à un grand précipice, et d'ailleurs, le soir même où Jack l'a aperçue, elle veut se suicider. Il la retrouve, et là, il va lui dire, tu sais, je suis impliqué. Vous vous rappelez cette phrase, si tu sautes, je saute, je suis impliqué. Pourquoi diable irait-il mettre sa vie en jeu pour une femme qu'il ne connaît pas? Mais précisément, c'est parce qu'il a été saisi par ce regard qui lui a dit ce que Lévinas nous dit, c'est-à-dire « protège-moi », et cet appel d'autrui qu'il a su saisir dans le visage de Rose lui impose de mettre sa propre vie en jeu, et c'est ce qu'il va faire jusqu'au bout d'ailleurs. Vous vous rappelez qu'il lui laisse à la fin la seule planche qui lui aurait permis de survivre. Il choisit de sauver Rose plutôt que lui-même, et voilà, ce film, au-delà de l'histoire d'amour, c'est aussi, il nous explique aussi comment autrui est ce qui va nous fonder dans notre être et dans notre subjectivité.
Thibaut de Saint-Maurice.
Oui, moi j'aime beaucoup Titanic pour ses qualités esthétiques, mais aussi parce que au fond c'est un, à mon sens, un excellent exemple de ce malentendu dont on parlait en début d'émission entre culture classique ou et culture populaire. Parce que Titanic, au fond, c'est une histoire qui n'a absolument rien d'original. C'est la rencontre entre deux jeunes premiers devant lesquels la vie s'ouvre. C'est Shakespeare, c'est Molière, c'est Roméo et Juliette. C'est des tas de romans, c'est des tas... Voilà, cette histoire n'a strictement rien d'original. Et en même temps, donc on peut pas ce film, comme ça, reprend tout cet héritage culturel-là. Simplement, ce film va le porter dans un contexte singulier et dans une ambition esthétique et artistique singulière qui est de porter ces histoires-là au plus grand nombre, à travers une histoire qui a été un fait divers, en tout cas un événement absolument mondial. Et donc ce travail de réinterprétation-là porte les ambitions d'une pop culture, à mon avis, réussie, qui est celle de faire culture commune.
Titanic à regarder donc avec totalité et infini d'Emmanuel Lévinas à portée de main. Alors, on vous a posé la question suivante sur la page Facebook de Grand Main Vous Fasse. Quelles sont les fictions pop qui ont changé votre vie? Vous avez été nombreux à répondre. Florence nous dit, il m'aura fallu quelques années et plusieurs rediffusions pour que j'atteigne l'âge et la maturité pour pleinement apprécier la série Sex and the City. Encore aujourd'hui, je trouve ça d'une audace, d'une liberté. C'est une ode à la féminité sans injonction, féministe. Cette série, avec évidemment les malentendus qui l'accompagnent. Valérie nous dit « Je suis en train de revisionner tout Lost avec ses personnages, Locke, Hume, Rousseau, Bentham, Alpert, dont les philosophies dans l'adversité et le vivre ensemble se confrontent. » Et puis un joli mail également de Gabriel qui nous dit « Confiné tout novembre chez mon père qui a 85 ans, on a regardé régulièrement des Columbo et je réalise à quel point cette série a façonné nos esprits. L'homme ordinaire dont les apparences ringardes plaident contre lui est souvent amené à débusquer les failles de personnes brillantes par le statut social et le talent. C'est la revanche de Monsieur Tout-le-Monde méprisé pour sa vieille bagnole, sa méconnaissance des codes de la haute société, mais qui, à force de patience, d'entêtement et d'astuce, finit par imposer le respect. Adolescent, il m'a permis de sortir de l'identification aux belles gueules du cinéma ou aux dieux du stade. Frédéric Segris, réflexion, hein, on voit bien que la culture pop influence pas mal de nos auditeurs. Hein.
Mais partout, tout le temps. La petite maison dans la prairie, moi j'ai passé tellement de temps, les leçons de morale de Charles Ingalls avec ses moissons qui tout d'un coup, cette récolte qu'il a perdue, il va falloir patienter jusqu'à l'été prochain. On apprend tout le temps en regardant une série ou un film ou même une, ou en lisant une BD.
Thibaut de Saint-Maurice.
Oui, puis ce qui est singulier, c'est que là, le dernier auditeur dit qu'il était confiné chez lui et que donc il a revu des épisodes de Columbo. Moi, ce qui me touche toujours, c'est que ce sont des expériences aussi du quotidien, des expériences de l'intime. On a tous des grands souvenirs de moments exceptionnels où on a vu un film à sa sortie, on a été à un concert incroyable, où on a vu une expo formidable. La puissance de cette pop culture ou de cette culture commune, comme moi j'aime bien l'appeler, c'est que en fait elle est hyper accessible, quoi, et que elle est présente là à nos côtés et qu'on peut s'appuyer dessus et qu'on peut en parler tous les jours.
Allez, n'hésitez pas à réagir à notre conversation sur l'application France Inter et sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Je vous propose d'écouter Baccar, First Time. Baccar, First Time.
France Inter. Grand Bien Vous Fasse. Ali Rebéi.
Et on s'intéresse à la pop philosophie ce matin avec Marianne Chaillant, Thibaut de Saint-Maurice et Frédéric Sigrist. La philo par les grands classiques de la culture pop. Exemple avec Harry Potter. Harry Potter, c'est le grand cycle romanesque inventé par la Britannique J.K. Rowling, adapté notamment au cinéma. C'est le sorcier le plus célèbre du monde. Et Marianne Chaillant, Harry Potter pose notamment la question de la mort. Et vous posez la question suivante dans votre livre In Pop We Trust. Le temps est-il notre ennemi ou notre allié, en vous appuyant sur la philosophie de Nietzsche?
Oui, vous vous rappelez que Harry Potter, quand on le rencontre, il nous est présenté comme le survivant, il a survécu au sortilège de la mort. À la fin du livre, il est maître de la mort parce qu'il possède les trois reliques, mais surtout, parce qu'en fait, il a accepté de mourir. Et toute la tâche de Harry Potter dans la saga, finalement, c'est d'accepter la finitude, la sienne, la disparition de ses proches. Et c'est ce qu'il réussit à faire. Et c'est pourquoi lire Harry Potter, pour nous, ça a été aussi ça a été aussi un enseignement qui nous a permis d'apprendre à mourir, ce qu'offre aussi la philosophie. Alors en quoi c'est Nietzsche ? C'est que Nietzsche nous parle de l'éternel retour. C'est une expérience qui consiste à nous demander si nous accepterions de revivre notre vie sans rien en changer pour l'éternité. Qui accepterait de revivre les drames, les tragédies qu'il a connues ? Et Harry Potter, il est cet homme fort nietzschéen qui réussit à passer l'éternel retour et à affirmer la vie dans toutes ses dimensions, sans vouloir en retrancher aucune, ce que ne parvient pas à faire son adversaire Lord Voldemort.
Accepter la vie telle qu'elle est, Harry Potter accepte avec lucidité la réalité de l'existence, hein, dans toutes ses dimensions.
Oui, bien sûr. Vous connaissez peut-être le retourneur de temps dans la saga. C'est ce qui permet de revenir dans le passé. Dans une œuvre qui est sortie après la saga, qui est Harry Potter et l'enfant maudit, Harry Potter dispose d'un retourneur de temps. Et pour autant, il va retourner dans le passé. Il ne va rien changer. Il ne va pas sauver ses parents. Il ne va rien changer. C'est ça la force. Alors évidemment, nous n'avons pas de retourneur de temps, nous, Ali. Mais la question, c'est est-ce que si nous en avions un, est-ce que nous voudrions changer quoi que ce soit à notre vie ? Et peut-être la réponse est oui. Parce que peut-être il y a des choses que nous avons vécues que nous aurions préféré ne pas vivre. Peut-être qu'il y a des choses dans notre vie que nous avons du mal à accepter et encore plus à aimer. Et pourtant, c'est ça la leçon de Nietzsche. La force, la véritable force, est dans l'assentiment que nous donnons à toutes les dimensions de notre vie. Non seulement l'assentiment, mais même l'amour que nous portons sur tous les moments de notre vie. C'est une tâche inouïe et c'est pourtant la leçon que nous donne J.K. Rowling dans sa saga.
Le grand oui à la vie. Thibaut de Saint-Maurice.
Oui, Harry Potter, c'est aussi une magnifique saga, une magnifique histoire d'apprentissage, de formation. Voilà, Harry est enfant et puis presque adulte à la fin de la saga. Et ce que je trouve singulier, c'est que cet apprentissage, c'est pas exactement l'apprentissage à la Spider-Man avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Il y a cette dimension-là, bien sûr, mais c'est l'idée précisément. Harry Potter, il est magicien. C'est qu'en un sens, il a plein de tours, plein de potions, plein de sorts qu'il peut jeter, etc. Mais que l'essentiel, finalement, à apprendre, c'est pas tellement toutes ces possibilités nouvelles, mais l'essentiel à apprendre, c'est à apprendre qui l'on est et ce que l'on peut, et au sens de ce que cette existence-là, elle-même, ne sera pas transformée. C'est-à-dire que Harry Potter a beau être magicien, il n'en reste pas moins hommes. Et cet apprentissage-là, je le trouve assez singulier dans cette série.
Frédéric Sigrist, qu'avez-vous appris en lisant Harry Potter ?
L'inertie du monde des adultes. Je trouve que Harry Potter, c'est aussi ça, c'est montrer des gens âgés, en charge de l'autorité, mais qui sont toujours figés dans des codes qu'on a l'impression d'être inamovibles, et une jeunesse qui va devoir, au fil des livres, apprendre à se débrouiller tout seul et à s'affranchir du modèle des adultes pour trouver une solution à des problèmes qui n'ont pas été causés par eux. Et je trouve que finalement, c'est assez d'actualité.
Hakuna Matata. Mais quelle phrase magnifique!
Hakuna Matata. Quels sont fantastiques!
Ces mots signifient que tu vivras ta vie
sans aucun souci.
Marianne Chaillant, le roi lion de Disney, permet de poser la question suivante. Dépend-il de nous d'être heureux, Hakuna Matata, qui veut dire pas de souci, hein. Pourquoi cette phrase et la pensée qu'elle renferme sont-ils si puissants et d'ailleurs, vous vous appuyez sur la pensée de l'empereur philosophe Marc Aurèle, hein, pour répondre à cette question. Dépend-il de nous d'être heureux ?
Mais oui, parce que vous vous rappelez, au moment où Simba apprend ce mantra Hakuna Matata, il va très mal. Il pense qu'il est responsable de la mort de son père. Il a envie de mourir. Et puis on lui dit Hakuna Matata. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand le monde te persécute, tu te dois de persécuter le monde, dit Timon. Ou alors on se tourne vers Épictète ou Marc Aurèle, effectivement, des philosophes stoïciens, qui nous disent que, bon, si on veut être heureux, ça dépend de nous. À condition que nous fassions l'effort de discipliner notre assentiment, c'est-à-dire changer le regard qu'on porte sur les choses. Et la prescription, effectivement, de Marc Aurèle que vous évoquiez, c'est il faut retrancher de notre esprit ce que les autres peuvent penser. Il faut oublier ce que nous avons fait nous-mêmes dans le passé. Il faut cesser de s'inquiéter pour l'avenir. Il faut uniquement se concentrer sur ce qui dépend de nous ici Et maintenant, comme Simba va le faire, il va penser uniquement à cette oasis en plein cœur du désert dans laquelle il va vivre. Cette oasis en plein cœur du désert, c'est vraiment une métaphore stoïcienne. Les stoïciens, ils nous disaient de nous retrancher dans une forme de citadelle intérieure pour supporter ce que la vie nous réservait comme épreuve. Et étant cette citadelle intérieure, eh bien, nous serions à l'abri. C'est ce qui va arriver à Simba. Grâce à ce pouvoir de Hakuna Matata, il va être à l'abri.
Vous deux de lignée, Frédéric Sigrist.
Oui, parce qu'en fait, pour moi, Hakuna Matata, ça a toujours été le paradis artificiel du roi lion. C'est-à-dire, c'est sa drogue et d'évasion. C'est-à-dire que tu n'arrives plus à gérer. Allez, prends un coup d'Hakuna Matata. Et voilà. Et je pense qu'il y a aussi cet aspect de je fuis une réalité qui me dépasse. Et c'est pas un hasard si c'est quand il rencontre Rafiki qui lui dit, mais non, attends, t'es pas n'importe qui, tu peux pas vivre dans ton oasis toute ta vie. Y a Nala aussi qui lui dit, non, t'as des responsabilités, tout ça. Et je trouve que c'est vraiment ce ceinture noire de refoulement, Hakuna Matata. C'est-à-dire que tu ne veux pas affronter ton truc. Hakuna Matata, ça va mieux. Je fais comme si tout allait bien. Mais il y a quand même cette idée de mirage, justement, dans le désert, d'oasis qui, voilà, ça m'apporte du bien, mais finalement, j'échappe à mon réel.
Thibaut de Saint-Maurice, vous êtes plutôt du côté de Marianne Chaillant, de Frédéric Sigrist.
non,
une voix médiane, une troisième
ça.
Voix.
Non, mais je désolé, mais c'est vrai que je suis plutôt d'accord avec l'analyse qu'en propose Marianne Chaillant, au sens où je comprends l'effet d'un peu de refuge un peu illusoire que ça peut procurer, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est le résultat d'un travail, d'un effort, d'une discipline, et que au fond, l'idée, c'est que ça peut devenir en fait une solution dans la mesure où ça transforme notre rapport au monde. Certain que si c'est une forme, si le pas de souci signifie au fond une forme d'insouciance au sens de la négligence, effectivement, c'est le meilleur moyen de se prendre un mur. Si le pas de souci se comprend comme une forme de ne pas se laisser atteindre par le souci et ne pas se causer un souci qui serait illégitime, alors c'est plutôt la marque d'une force.
Je dis ça parce que Timon et Pumba sont eux-mêmes des marginaux. C'est-à-dire qu'ils vivent en marge d'une société qui les a rejetés. Et quand Simba se propose de les réintégrer, eux-mêmes rejoignent le conflit et sont très contents de retrouver une place dans le grand cycle de la vie. Donc je pense qu'il y a aussi cette idée de voilà. Et je suis d'accord que c'est utile, mais c'est un passage de transition vers de nouveau une intégration dans un grand tout.
Pendant ces vacances de Noël, vous regardez donc Le Roi Lion et vous lisez ensuite Les Pensées pour moi-même de Marc Aurèle. Hunger Games, c'est d'abord une trilogie romanesque de l'américaine Suzanne Collins qui met en scène l'héroïne Katniss Everdeen, qu'adore Thibaut de Saint-Maurice. Quel est l'argument en quelques mots d'Hunger Games, Marianne Chaillant ?
Alors, on est dans un État qui possède une capitale nommée le Capitole. Il y a 13 districts qui vont se rebeller contre la capitale. La rébellion va être écrasée. Et pour que le peuple garde en mémoire qu'il ne fait pas bon se rebeller, il va instaurer des Hunger Games. C'est-à-dire une lutte à mort entre des représentants de chacun des districts de l'État. Et seul l'un d'entre eux sortira des Hunger Games.
Et l'une des questions que pose Hunger Games, que vous posez, c'est l'homme est-il naturellement bon ? Et c'est le Léviathan de Hobbes qui permet une lecture philosophique de Hunger Games.
Oui, parce que j'ai eu l'impression que cette arène des Hunger Games nous donnait une leçon un peu amère sur la nature humaine. C'est, d'une certaine manière, ça ressemble à l'état de nature, ce que les philosophes appellent l'état de nature, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'état, il n'y a plus de loi. Et là, qu'est-ce qui apparaît ? Une solidarité ? Un refus de ces jeux du Hunger Games ? Ou est-ce que chacun, de façon égoïste, va œuvrer pour sa survie, quels que soient les moyens employés ? Et on a l'impression, du moins dans un premier temps, que cette saga nous rejoint la vision pessimiste de Thomas Hobbes et nous montre une nature humaine pas du tout bienveillante, pas du tout animée par l'amour de son prochain, mais plutôt traversée par une inimitié naturelle où chacun poursuit son profit et engage avec les autres des rapports de force ou de puissance. Alors ça, c'est la première lecture. On a vraiment l'impression que les Hunger Games, c'est ça, c'est la loi du plus fort, c'est l'homme est un loup pour l'homme. Et puis après, peut-être on se dit que Katniss, certes, est une héroïne passionnante, Thibaut a raison, mais peut-être que le héros de la saga, c'est peut-être Peeta, bizarrement. C'est-à-dire que c'est grâce à lui qu'elle survit, finalement. C'est grâce à l'amour qu'il a pour elle, c'est grâce à la solidarité dont il fait preuve. Et peut-être qu'à la fin, on se rend compte que la leçon n'est pas si pessimiste et les Hunger Games vont éclater, la reine va éclater sous l'effet sous l'effet de l'amour et de la solidarité qui peut se nouer entre humains, quand bien même on poussait les humains à s'entre-détruire.
Thibaut de Saint-Maurice.
Oui, moi j'aime particulièrement cette héroïne Katniss Everdeen parce qu'elle elle a un parcours qui est complètement étonnant, incroyable, et qu'elle raconte quelque chose, je crois, de la subjectivité politique contemporaine, notamment à travers la façon dont elle va se constituer elle-même en tant que sujet politique, alors même qu'elle se retrouve complètement prise dans ces jeux dans lesquels elle a une marge de manœuvre très réduite. Au fond, c'est l'idée selon laquelle, alors moi j'appellerai ici Michel Foucault, c'est l'idée selon laquelle, en s'assujettissant, c'est-à-dire en entrant dans les jeux de pouvoir, en devenant sujet au sens de soumis, eh bien on devient aussi sujet politique au sens de capable de se révolter.
Pour moi, Hunger Games, c'est un livre qui incarne toutes le contraste, la schizophrénie américaine. C'est-à-dire que c'est un livre dans lequel il est plus facile de montrer des adolescents enfoncer des épées ou des flèches dans le corps d'un autre adolescent plutôt que de coucher avec. C'est-à-dire que finalement, la sexualité, c'est vraiment le véritable tabou d'Hunger Games, alors que ils sont en train de vivre quelque chose d'exceptionnel. Ils sont prêts à s'entretuer, mais par contre, s'aimer et se dire bah tiens, c'est peut-être dans ce monde cataclysmique, c'est peut-être là qu'on peut se donner du bonheur. Ah bah ça non, c'est vraiment pour la fin, parce que c'est codifié et faut pas le faire n'importe où.
J'ai pas mon édito.
Vous avez reconnu évidemment Frédéric Segris, oui. C'est le générique de l'excellente émission estivale Blockbuster. C'est également une chronique le vendredi à 6h55 et c'est un jeu.
Et c'est des podcasts.
Et c'est
natifs.
Des podcasts, évidemment, des podcasts natifs. Et il existe donc un jeu 100% pop culture. Et pour terminer, eh bien, on va jouer Marianne Chaillant, Thibaut de Saint-Maurice. Vous pouvez jouer également Frédéric Segris. Tiens, j'ai pioché dans les séries, dans les questions séries, une question très 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 facile. Hein. Comment se nomme le héros de 24 heures chrono, aussi connu
Jack
sous
Bauer.
Le nom... Ah ben voilà, Jack Bauer, j'ai même pas le temps de donner les... Voilà, comment s'appelle l'épouse alcoolique de JR dans Dallas?
Sous Hélène.
Bien, yeah, bravo. Question cinéma, tiens, un peu plus difficile. Dans la prélogie Star Wars, l'empereur a un apprenti, lequel? 1. A, le comte Dooku. B, le général Grievous. C, Asajj Ventress. J'ai l'impression que j'ai tout mal prononcé.
Non, mais
je passe la parole à Frédéric Segrist.
C'est lui qui a écrit les...
justement, pour voir s'il connaît la réponse.
Oui, bah, c'est le comte Dooku.
Oui. Tiens, Tom Hanks, c'est-il un descendant d'Abraham Lincoln? Vrai ou faux, Thibaut de Saint-Maurice?
Comment dire, dans quel film?
Non, pour de vrai.
Non, je ne sais pas.
Marianne Chaillon.
C'est possible.
Oui, bah c'est vrai, hein, c'est totalement vrai. Tiens, allez, une question série. Bien avant Barack Obama, les États-Unis fictifs de 24 heures chrono avaient déjà un président afro-américain. Quel était son nom?
Palmer.
Ah oui.
Et bon, on termine là avec une dernière question, allez. Frédéric Segrist.
Dans Star Wars, quel est le nom du chasseur de primes qui livre Han Solo à Jabba le Hutt?
Mandalorian.
C'est effectivement un Mandalorian, c'est bien. Mais comment s'appelle-t-il?
Mandalorian.
Boba Fett, j'ai entendu.
Oui,
elle l'a dit.
Marianne
Chaillon,
donnez la réponse.
Oui, Boba Fett, c'est ça.
Ah ben voilà, c'est exactement ça.
Ah ben, très bien.
Bon, ben merci à tous. Merci Marianne Chaillant. On peut lire avec profit In Pop We Trust, publié aux Équateurs. Merci Thibaut de Saint-Maurice. Merci Frédéric Segrist. La boîte de jeux Blockbuster est idéale pour les belles soirées des vacances de Noël. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de France Inter.